Le texte que nous allons lire ce matin nous parle de qui nous sommes, de notre identité, et par là même nous montre comment notre comportement, notre conduite doit être finalement en accord avec cette identité. Alors la semaine dernière, j'étais pas au culte, mais en regardant sur le site, j'ai vu que le pasteur Cabot vous avait rappelé que nous sommes des rachetés. Et prendre conscience de ce fait-là change radicalement notre regard à la fois sur nous-mêmes, mais aussi sur Dieu et sur ceux qui nous entourent. Nous sommes des rachetés. Voilà, c'est ce qu'on appelle finalement la marche chrétienne, la façon dont on se conduit quand on a compris ça. Et ça, ça a à voir avec la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Alors la sainteté, j'y reviendrai une autre fois parce que c'est un chapitre à part entière. Mais voilà, pour aujourd'hui déjà, laissons-nous enseigner sur notre identité, notre conduite et notre séparation. Je vous invite à la lecture. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 8 à 14. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres des ténèbres, les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole qui veut nous enseigner ce matin. Nous te prions que tu nous rendes disponibles, disponible des oreilles, mais aussi de l'intelligence et du cœur, afin, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse travailler en nous. Pendant que nous l'écoutons, cette parole, mais aussi dans les jours qui suivront, qu'elle ne reste pas pour nous simplement un bon moment, mais, Seigneur, qu'elle puisse continuer à nous changer, à nous transformer, toujours plus proche à l'image de ton Fils Jésus. C'est notre prière ce matin. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous l'avez compris, dans ce court passage, chaque mot et chaque articulation a son importance. Il est tout d'abord question d'un changement de temps. Il y a le passé, autrefois, et l'aujourd'hui, maintenant. Autrefois, vous étiez, maintenant vous êtes. Il y a aussi un changement de situation, voire de statut. Vous étiez ténèbres. Vous êtes lumière. Enfin, il est fait mention de celui qui a permis le passage d'une situation à l'autre, à savoir le Seigneur, l'envoyé du Père, pour nous ouvrir ce passage des ténèbres à la lumière. Alors avant de passer peut-être trop rapidement au fait merveilleux que nous sommes lumière dans le Seigneur, il nous faut nous arrêter un instant sur ce que nous étions avant. Nous étions autrefois ténèbres nous-mêmes. Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais ça mérite de s'y arrêter. Déjà parce que ça veut dire que là réside un danger pour nous. Une des conséquences, c'est qu'il y a en nous encore quelque chose de sensible qui lutte et qui parfois répond à l'appel des ténèbres. C'est pourquoi moins nous avons affaire avec les ténèbres, mieux ce sera, évidemment. Que ce soit en rapport avec les pratiques de ténèbres, c'est ce que dit Paul, ou même avec les personnes qui sont elles-mêmes ténèbres et qui donc les pratiquent. Voilà la mise en garde de l'apôtre. Nous qui croyons, nous sommes lumière dans le Seigneur, nous dit-il, et par conséquent, intolérants vis-à-vis des ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Et nous avons besoin de le réentendre. Si la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. La lumière et les ténèbres s'excluent réciproquement. On voit cela dans le récit de la Genèse. Le premier acte créateur de Dieu, c'est d'appeler la lumière à l'existence et tout de suite de séparer très nettement la lumière des ténèbres. Voilà comment s'explique aussi, je crois, la séparation à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est ce que nous avons rappelé il y a 2 semaines en méditant sur la réalité de l'appel de Dieu, cet appel qui nous prend et qui nous enlève d'un endroit pour nous mettre dans un autre endroit, même si c'est spirituel. Et je crois qu'il nous faut nous rappeler que Dieu ne nous sépare pas du monde pour nous faire souffrir, ni pour nous rendre la tâche difficile ou je ne sais quoi d'autre. Il nous sépare parce qu'il en va de notre survie. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et en fait, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal en continuant à garder un pied dans chaque monde. Nous nous exposons à un écartèlement qui est intolérable et insupportable. Et c'est, je crois, ce qui nous fait souffrir. Dieu nous a retirés du monde pour nous faire entrer dans son royaume. Ainsi, nos vies, nos lois, nos habitudes, nos désirs, nos pensées, etc., doivent correspondre à ce royaume-là et plus à celui que nous avons quitté. Nous devons être différents parce que nous le sommes en réalité. Et ça, ça doit se voir. Étant lumière dans le Seigneur, nous devons marcher, dit Paul, comme des enfants de lumière. Nous devons être en pratique ce que nous sommes en réalité. Et vous l'entendez, il est question ici de notre identité profonde. Et ça nous pose la question à chacun, hein, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous ce que vous êtes? Je ne suis pas sûre qu'on soit toujours très au clair là-dessus. Le problème avec ces questions, et là c'est très actuel, c'est le mensonge. Et toutes les fausses informations qui circulent et qui envahissent tout, au point que parfois on ne sait plus démêler le vrai du faux. Alors je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un tableau de l'actualité et de la puissance de ce mensonge qui envahit, le complotisme, etc. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais quand même. Peut-être c'est le moment de nous rappeler que le premier diffuseur des fake news, comme on dit aujourd'hui, c'est Satan. Jésus appelle Satan notre adversaire, le père des mensonges. C'est son boulot à lui, le mensonge. C'est sa spécialité. Le mensonge, du coup, est proprement diabolique. Or, Dieu veut nous libérer de tous ces mensonges, parce que ces mensonges nous plombent. Ils nous empêchent d'avancer, à commencer par les mensonges sur nous-mêmes. Et là aussi, hein, on l'a vu... En tout cas, les groupes qui sont avec moi sur là où on en est dans l'étude de l'Apocalypse, au chapitre 12, le verset 10, Satan passe le plus clair de son temps à nous accuser et à tenir contre nous de faux témoignages. Voilà son travail. Et si Jésus est la lumière, c'est qu'il est venu pour tout mettre à la lumière. La vérité dans la Bible n'a rien d'abstrait. Dans notre monde, la vérité, c'est un concept. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Hein. On sait de moins en moins ce que ça veut dire, d'ailleurs. Mais dans la Bible, le mot qui est traduit par vérité, ça veut dire ce qui n'est pas caché. C'est assez clair, ce qui n'est pas caché. Et parfois, il suffit effectivement que nous mettions en lumière le mensonge pour révéler la vérité qui lui correspond et du coup briser le pouvoir du mensonge. Paul dit aux Éphésiens, dans le texte que nous avons lu, « Quand ces œuvres sont mises en pleine lumière, leur vraie nature se révèle clairement. Tout ce qui est clairement révélé devient lumière. » Alors voilà un premier mensonge sur nous, dont nous devons nous libérer. Tu tires ton identité de ce que les gens disent de toi. Alors que la vérité biblique est celle-ci, tu tires ton identité de ce que Dieu dit de toi. Prenez votre identité de ce que Dieu vous dit. Et quelles sont ces paroles de Dieu? Alors elles sont nombreuses, hein. On pourrait passer de longues heures dans la contemplation de ce que Dieu dit de nous. Mais nous nous contenterons d'un texte du prophète Ésaïe ce matin. Comme ça, j'aurais pu en choisir un autre. Je vous le lis et laissez Dieu vous parler à vous personnellement. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, qui t'a formé. Ne crains pas car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et les flammes ne t'atteindront pas, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Tu vaux cher à mes yeux. Tu as du poids. Moi, je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Voilà ce que Dieu dit. Voyons maintenant un deuxième mensonge qui est courant également. Mon identité dépend de ce que je fais. Et vous voyez bien que la deuxième vérité est évidente. Mon identité dépend de ce que Dieu a fait pour moi. Alors que moi je n'ai rien fait, Dieu est venu pour me donner une position, un rang, une situation. Mon identité ne dépend ni de ce que j'ai fait dans le passé, ni de ce que je fais maintenant, ni même de ce que Dieu me donne à faire ou de ce que je fais pour Dieu. Mon identité dépend du fait que Dieu me place à côté de lui, en relation avec lui. Désormais, je suis quelqu'un parce que je suis son fils ou sa fille. Vous n'avez rien fait. Vous étiez même loin de penser à lui, peut-être. Mais Dieu est venu en Jésus-Christ, jusqu'à vous, avec vos doutes, vos failles, votre fragilité, pour vous dire que vous avez de la valeur, rien que par votre existence. Il est venu montrer l'amour de Dieu pour nous, en mourant à notre place sur la croix, en nous offrant ainsi le pardon, la réconciliation et la vie éternelle. Voilà notre identité. Voilà ce que nous sommes réellement. Notons ceci soigneusement parce que c'est une des caractéristiques des exhortations de l'Évangile. La loi demandait aux hommes d'être ce qu'ils n'étaient pas. Parfait. L'Évangile exhorte les croyants à être ce qu'ils sont. Des fils et des filles de Dieu, des enfants de lumière d'après ce texte. Et du coup aussi à briller au dehors. Alors le verset 9 explique que ce qui va briller au dehors, c'est le fruit de la lumière. Trois mots résument ce qu'est ce fruit, la bonté, la justice et la vérité. Leur contraire, le mal ou la méchanceté, l'iniquité ou l'injustice, le manque de réalité ou le mensonge, devraient être entièrement exclus de nos vies. Et quand nous marchons en enfants de lumière, nous éprouvons ce qui plaît à Dieu. Nous l'éprouvons non pas par un processus de raisonnement, mais par une expérience pratique. Nous mettons les choses à l'épreuve et ainsi nous apprenons expérimentalement pour nous-mêmes. Marcher comme des enfants de lumière, c'est manifester les caractères de sainteté, de séparation du mal, qui doivent être vus en tous ceux qui demeurent responsables de faire briller la lumière de Dieu au sein des ténèbres de ce monde. Une telle marche, personne ne dit que c'est facile, hein ? Une telle marche doit nous amener à prendre garde à nos paroles, comme aussi à nos actions, à nos pensées. C'est en fait un appel à la vigilance. Et on peut résumer la vie du croyant en ce qu'elle consiste à produire les fruits de la lumière, puisqu'il est un enfant de la lumière, tout en maintenant une séparation complète d'avec les œuvres des ténèbres, puisqu'il ne fait plus partie des ténèbres. Et en vérité, le texte va même plus loin, puisqu'il nous dit « il faut les dénoncer ou les démasquer ». Je préfère « démasquer ». Je trouve que le sens est plus proche du mot. Les démasquer. les mettre en lumière en fait. Il s'agit donc de dévoiler, avec la lumière, le vrai caractère des œuvres en question. Et si un croyant brille dans son vrai caractère, toute sa vie aura cet effet, en fait, de dévoiler ce qui est mauvais. C'est exactement comme ça que Jésus a mené sa vie. Le passage que nous considérons fait reposer sur nous une responsabilité très solennelle. Et c'est justement là où les frictions avec le monde, les ennuis avec le monde commencent. Parce qu'en général, les gens ne font pas tellement d'objections concernant la bonté du christianisme. Là, on ne les dérange pas trop. Ils approuvent le fait qu'on ait des paroles ou des actions bienveillantes. Les ennuis commencent quand la sainteté est maintenue. Et la sainteté, comme ces versets le montrent, demande qu'il n'y ait aucune communion avec le mal, ni avec ceux qui font le mal, ni avec leurs œuvres. Quand un croyant marche dans ce chemin de séparation qui lui est demandé ici et qu'il se manifeste comme un enfant de lumière, eh bien oui, il peut s'attendre à des tempêtes. Il en fut ainsi pour notre Seigneur et Maître. Et il est évident que les mots « Dieu est amour » ont toujours été plus populaires que « Dieu est lumière » ou « justice » ou « sainteté ». Alors oui, la propriété spécifique de la lumière est de manifester tout ce qu'elle éclaire. La vérité des choses devient claire et par conséquent, celui qui pratique la vérité accueille volontiers et naturellement la lumière, tandis que celui qui fait le mal est la lumière et l'évite. Et là aussi, avant de penser aux non-croyants qui nous entourent, je pense que si nous nous posons un peu avec nous-mêmes, nous savons bien en tant que chrétiens ce qui se passe. Si nous y réfléchissons un peu, nous verrons la chose suivante. Si nous voulons chercher ce qui en nous n'appartient pas au Seigneur, ce qui fait obstacle à sa lumière, ce qui entache la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, il nous suffit de réfléchir à ce que nous faisons en cachette. On aura la liste. Alors vous allez me dire, peut-être ça paraît difficile, voire impossible. Mais les mots à côté desquels il ne faut pas passer ce matin, c'est que Dieu est lumière en lui-même, les croyants sont seulement lumière dans le Seigneur. Un peu comme la lune, qui n'est une lumière pour nous que quand elle est éclairée par le soleil. La lune ne produit pas de lumière seule. Et en fait, c'est un peu pareil. Nous devons, comme la lune, demeurer dans la lumière de notre luminaire à nous, le Christ. Et en fait, notre seule responsabilité, je dirais, c'est celle-là. Hein. Demeurer dans la lumière du Christ pour que nous aussi nous éclairions les autres. C'est notre responsabilité et ça rejoint l'enseignement du Christ dans l'évangile de Jean quand il appelle à demeurer en lui. Avec ce texte du cep et des sarments. Le verset 14 qui nous parle du fait que Christ nous éclaire nous pose aussi une question très sérieuse avec ce texte qui ressemble à un poème, hein, « Réveille-toi, toi qui dors ». Ne courons-nous pas le danger de nous endormir parmi les morts ? Et là aussi, c'est une mise en garde que Dieu nous donne ce matin à partir de ce texte. Par tant de moyens, et souvent insensiblement, sans même que nous nous en rendions compte, l'ennemi nous amène à une certaine conformité au monde. Une conformité qui est néfaste. Ressembler au monde dans son langage, dans sa marche, dans ses habitudes, dans sa recherche de tout ce qui peut satisfaire les désirs du cœur naturel en tout cas, tout cela nous empêche de jouir de notre appel céleste et de marcher d'une manière digne de cet appel. Dès que nous tolérons les influences mondaines, en fait, nous sommes gagnés par le sommeil spirituel. Et l'ennemi va remporter des succès de plus en plus faciles dans nos vies. Au début, on ne s'en rendra pas compte. Au début, c'est un assoupissement, mais rapidement, La succession, c'est le vrai profond sommeil. Une conformité au monde dont on finit par ne même plus avoir conscience. Alors oui, nous sommes facilement victimes du sommeil spirituel, tellement les influences du monde sont soporifiques. Alors nous devenons comme des hommes qui dorment parmi ceux qui sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Or, nous sommes les vivants. Nous sommes les vivants et eux sont morts. Et du coup, normalement, il devrait y avoir une distinction très nette entre eux et nous. Si nous dormons parmi les morts, nous leur serons semblables. Or, nous sommes appelés avec ce texte à nous réveiller, à nous lever pour être dans la lumière du soleil de Christ. C'est ainsi que nous sommes débarrassés de toute communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres et que, étant nous-mêmes lumineux, eh bien, nous allons pouvoir manifester aussi le fruit de la lumière. Identité, séparation d'avec le monde, marche chrétienne. Voilà les domaines dans lesquels Dieu veut nous enseigner ce matin. Je prie que cette parole ne fasse pas que passer en nous d'une oreille à l'autre, mais que nous osions abattre les forteresses qui en nous résistent aux vérités bibliques et au travail de l'Esprit-Saint, parce que ça aussi c'est une réalité. Que nous puissions continuer à méditer ces choses, à chercher des versets qui correspondent, à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Que le Seigneur nous aide à nous saisir pleinement de l'identité qui est la nôtre, afin que nous n'écoutions plus les mensonges du diable, mais que nous en soyons libérés. C'est la première chose. Qu'il nous aide à aimer la lumière et à haïr les ténèbres, et ainsi à démasquer en nous et autour de nous ce qui appartient encore aux ténèbres. Et enfin, qu'il nous donne par son esprit de nous conduire en enfants de lumière et de marcher à sa suite, éclairés par sa lumière, afin de produire des fruits de bonté, de justice et de vérité. Amen.